Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de pièces et main-d'œuvre. Bienvenue sur Floraison. Vous écoutez le 8e épisode de la série Face au monde machine, un entretien technocritique au long cours avec les grenoblois de pièces et main-d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on vous conseille de commencer par le premier pour une meilleure compréhension globale. Nous avons enregistré cet entretien au mois de juillet, au Chimère Café à Grenoble, et nous le restituons à présent sous forme de feuilleton, un nouvel épisode chaque vendredi. Dans les premiers épisodes, on a fait connaissance avec pièces et main-d'œuvre, puis on a enquêté sur l'industrialisation de la ville de Grenoble. La semaine dernière, on a parlé des premières luttes antinucléaires en France. Dans les épisodes à venir, on va maintenant suivre les aventures de la volonté de puissance à travers les âges, depuis le début des civilisations humaines jusqu'à nos jours. On va voir comment se concrétise cette volonté dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, au début du capitalisme industriel, puis par la cybernétique et enfin le transhumanisme. Et pour commencer cette aventure, l'épisode d'aujourd'hui répond à la question « Qu'est-ce que la puissance ?» Bonne écoute.
Bon, alors suivant ce qu'on s'est dit pendant que le micro était débranché, on va reprendre le fil chronologique de nos causeries habituelles, dont le dernier titre en vigueur est « Les aventures de la volonté de puissance », qui se décline sous trois sous-titres, ou « L'incarcération de l'homme-machine dans le monde machine », ou « Technologie, technocratie, transhumanisme », ou « Science, puissance, puissance. » Bon. Donc on va suivre ce fil chronologique et on va voir pourquoi ces titres successifs sont repris finalement sous le chapeau général des aventures de la volonté de puissance. Explication d'abord sur ce que c'est que la puissance et pourquoi nous portons cette attention obsessionnelle, soutenue, insistante sur la question de la puissance. Qu'est-ce que c'est d'abord que la puissance ? Alors l'étymologie, ça vient d'un thème indo-européen, une racine indo-européenne, poti. Le poti, en l'indo-européen c'est l'ensemble des langues qui vont de l'Inde jusqu'à l'Irlande, on parle de cette ère culturelle-là, le poti, c'est le chef d'un groupe social, quelle que soit la dimension du groupe social, que ce soit la famille, le clan, la tribu, etc. Ce poti, en grec, donne posis, l'époux, et despotes, le maître de maison, le despote, ce qui est déjà un mauvais signe pour l'époux. En latin, ça donne également, et en latin, l'adjectif potis, qui donne potestas. La potestas, c'est la puissance. Et la puissance donne en italien le podesta. Le podesta, ce sont ces magistrats du Moyen-Âge en Italie. C'est ceux qui peuvent... Je soupçonne que ce soit un subjonctif présent. Podestat, qu'il puisse. Et en latin, donc, le verbe possum, je peux, non possum, je ne peux pas. Je te vois hocher de la tête, t'as fait du latin, toi.
Un peu.
D'accord. Donc, tu te rappelles cette réponse non possumus, quand nous ne pouvons pas. C'est quand on fait une requête qui, théologiquement, non, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas acquiescer à ça, tant pis, je vais souffrir le martyr, mais sed non possumus. Bon. Donc, en français, ça donne deux formes au présent d'indicatif. Je peux et je puis. Je puis, c'est la forme ancienne, qui est devenue très chic. Puis-je, etc. Bon, je peux. Et donc, ça donne deux participes présents. Je peux donne pouvant, je puis donne puissant. Pouvant ou puissant, c'est la même chose. Or, le participe présent en français est la seule forme grammaticale qui indique à la fois l'actif et le passif, l'action et l'état. C'est pas moi qui l'ai repéré, c'est Jacques Derrida dans la grammatologie, et c'est pour ça qu'il a pondu le concept de différence avec un « a » qui m'a longuement obligé à me gratter la tête avant qu'une copine qui avait fait une sévrienne, qui avait fait normal sup, me dise « bah oui, bien sûr, c'est une forme passive et active, ambivalente ». En français, donc, l'adjectif « non », c'est-à-dire que c'est à la fois un nom et un adjectif puissant, arrive vers 1080. Et le puissant, c'est celui qui a un grand pouvoir, qui est très actif, qui produit de grands effets, qui a de la force physique, matérielle, permanente, qui a de la puissance, de l'énergie, comme le moteur, la machine, qui a une grande intensité. Par exemple, la voix de Stentor dans le micro, la voix puissante. Bon, ça, c'est la puissance. Et du mot puissant dérive le nom féminin puissance, vers 1550, donc un siècle plus tard. Et la puissance, alors là, ça commence à devenir intéressant. C'est d'abord un moyen ou bien un droit grâce auquel on peut quelque chose. Le moyen, c'est intéressant. J'y reviendrai plus tard parce que moyen, en grec, c'est le synonyme de machine. Mécané ou machina, ça signifie à la fois moyen et machine. Donc, tout de suite, c'est une indication que les moyens machines, les machines sont des moyens de la puissance. Et inversement. Et c'est également un droit. Par exemple, grâce à l'aveu, c'est-à-dire au passeport de son maître, un serf est en puissance de pouvoir aller à la ville voisine. Sinon, il est attaché à la glèbe. Il ne peut pas y aller. Donc être en puissance, c'est pouvoir, soit parce que le droit te donne le droit de le faire, le pouvoir de le faire, soit parce que tu as le pouvoir matériel de le faire. Pouvoir éventuellement médié par une machine. Bon. Donc la puissance, c'est l'état de celui qui peut beaucoup. Alors, l'état de celui qui peut beaucoup, c'est le roi. Puis au-dessus du roi, c'est qui ? C'est Dieu. Dieu dont le synonyme est le tout-puissant. La définition de Dieu, c'est qu'il est tout-puissant, il est immortel. Synonyme, capacité, virtualité, possibilité. Et en fait, dans cette puissance de, il y a deux concepts inclus, contenus. Tu es en puissance. Donc en puissance, tu peux faire ci ou en faire ça. Mais il faut que tu actualises, il faut que tu passes à l'acte pour que cette puissance se manifeste. Donc, dans le vocabulaire philosophique, ce qui existe en puissance s'oppose par antinomie à ce qui existe en acte. Ce qui existe en acte n'existe pas tant qu'il n'y a pas eu le passage à l'acte, le passage en puissance à l'acte, du virtuel à l'actuel. Là intervient quelque chose que Nietzsche appelle la volonté de puissance. La volonté de puissance, ça découle tout logiquement de tout ce qui précède, c'est la volonté d'agir sur le monde matériel, le monde qui nous entoure et qui nous constitue. Vous deux, vous faites partie du monde. Vous faites partie du monde parce que vous n'êtes pas immatériel. Vous êtes du carbone, vous êtes de l'oxygène, vous êtes de l'eau, vous êtes de l'hydrogène, et ainsi de suite. Vous faites partie du monde matériel. La volonté d'agir sur le monde, c'est donc la volonté d'agir sur le monde qui vous environne ou d'agir sur vous-même, matériellement. La quatrième déclinaison de la puissance, c'est l'énergie. La quantité de travail fournie par unité de temps et qui se mesure. Alors il y a les chevaux vapeur, le watt, énergie, erg. C'est un mot grec là encore. Vous le retrouvez dans chirurgie, urgent. C'est ergonomie. Erg, c'est la racine du travail en grec. Ça va donner d'ailleurs en anglais work, qui est beaucoup plus proche que le travail français. En français, on dit travail ou labour. Et on dit énergie pour l'énergie. Et puis enfin, cinquième synonyme, on appelle puissance les personnes, les organisations, les nations, les pays qui disposent du pouvoir. Hein ? C'est un topos, c'est un classique des théologiens, des poètes, des prophètes, que de s'en prendre aux puissances de ce monde, comme opposé à la puissance divine ou à la puissance de l'autre monde. Alors, on revient à la volonté de puissance. La volonté de puissance, la puissance et la volonté de puissance, à l'issue de ces 20 années d'enquête, et à titre tout à fait provisoire, parce que j'espère toujours être détrompé et falsifié, qu'on me montre en quoi je fais erreur, moi, je la vois comme le moteur de l'histoire humaine. Bon, il y en a pour qui c'est la lutte de classe ou le capital. Pour Freud, au moins dans les sociétés modernes, c'est le sexe et la libido. Pour René Girard, c'est le mimétisme. Mais là aussi, on est dans quelque chose de relativement moderne. Il faut déjà qu'existe des humains pour qu'existe le mimétisme. Des humains regardant la nature ou se regardant entre eux. Bon. Enfin, le mimétisme et la rivalité mimétique. Et moi, je vois la volonté de puissance, depuis l'émergence des sociétés humaines, comme étant le moteur du développement humain. C'est-à-dire comme la volonté d'agir sur le monde matière, en vue d'en être, comme disait Descartes, maître et possesseur. De la servir à nos volontés et à nos désirs. Je vais pas trop vite, ça va ? On va expliquer un peu, on va développer un peu. Descartes, philosophe français du XVIIe, Bacon un petit peu avant, mais on va les retrouver plus tard dans l'historique. Asservir le monde à nos volontés et le transformer suivant nos volontés. Le prima étant la volonté. Le moteur étant la volonté, la volonté de puissance. Alors, il y a d'autres façons de le dire. Marx dit de se produire. Marx et Engels, dans sa dialectique de la nature, expliquent que l'homme se produit lui-même en produisant le monde autour. Bon. C'est pour ça qu'en fait, tu as tout un tas de gens maintenant qui croient faire une grande découverte en t'expliquant que la nature n'existe pas, que c'est un produit humain, enfin bon. Produire, qu'est-ce que Marx veut dire par là ? Il veut dire d'une part ce que nous entendons couramment, c'est-à-dire fabriquer. L'homme s'auto-fabrique, s'auto-produit. Mais aussi, il faut revenir à l'étymologie du mot, produire, conduire devant, pousser devant, se montrer devant, comme tu te produis sur scène, comme un chanteur ou un acteur, un stand-up se produit sur scène. Bon, Marx utilise le mot dans les deux sens. C'est à la fois paraître et fabriquer. 100 ans après Marx, Heidegger, qui est un philosophe catholique à l'origine, enfin il est catholique, ayant eu des sympathies nazies affirmées, bon ça a été un dignitaire nazi, qui a beaucoup travaillé à la question de la technique, décide comme tous les philosophes en proie à la rivalité mimétique, en l'occurrence avec Marx, de fabriquer son propre vocabulaire. Et donc, à la place de produire, il utilise le mot provoquer. Mais ça veut dire la même chose. Provocare, c'est appeler dehors, faire sortir, faire naître. Hein. Par exemple, pour Heidegger, l'ingénieur provoque l'électricité qui dormait dans l'eau en la faisant, en l'appelant par le biais du barrage sur le Rhin, de ses turbines, de ses conduites, et ainsi de suite. Et Marx explique, Marx et Engels, donc ces deux, les deux fondateurs de ce qu'ils appellent le socialisme scientifique, par opposition aux socialistes utopiques qui les ont précédés, Marx et Engels expliquent que la nature est le corps non organique de l'homme. Les organes, organes, c'est un mot qui remonte aussi au grec. On a vu tout à l'heure erg, chirurgie, etc. C'est organon, c'est le même mot. Ça vient de cette racine-là. L'organisme est constitué d'organes, l'organisation aussi. Ces organes s'agencent entre eux, ou ils sont agencés par quelqu'un d'autre, par une puissance extérieure, afin de produire des effets et de provoquer des effets. Bon. Donc, quand Marx dit « la nature est le corps non organique de l'homme », il veut dire que l'homme s'empare du monde qui l'entoure et le métabolise, en quelque sorte, par le biais du travail qu'il fait dessus. C'est le travail qui fait l'homme. C'est le travail qui fait les sociétés humaines. C'est le travail qui fait le monde. Ça pour Marx et Engels, c'est vraiment travail. Moi, je le dis en franco-latin, travail. Eux, ils doivent le dire en allemand et en anglais. Werk, bon, c'est le même mot, donc. Werk, c'est une racine. Werk, work, org. Donc là, on est beaucoup plus proche de la racine indo-européenne et gréco-latine, ce qui rend la pensée beaucoup plus visible, beaucoup plus visible et transparente qu'en français. Et bon, il se lance dans cette course à la puissance, dont les étapes bon, alors, sont connues, hein, c'est la maîtrise du feu, la maîtrise de l'outil qui prolonge le bras humain et qui lui permet de travailler, la pierre ceci, la pierre cela... Et puis les choses plus sophistiquées, le tour du... Enfin bon, on ne va pas refaire la préhistoire des sciences et techniques. Et cette puissance qu'on peut décliner en prééminence, richesse, prestige, jouissance, force, vitalité, domination, pouvoir, donc ça on l'a vu avant, pouvoir, longévité, puissance... finit par se résumer en volonté d'avoir des pouvoirs à la façon des djinns, des esprits, de tous ceux qui ont des pouvoirs, hein, même des super-pouvoirs maintenant on dirait, d'avoir tout pouvoir, d'avoir toute puissance, et de devenir comme des dieux, sicut dei. Ça c'est la Genèse. Ça remonte loin, ça remonte au moins pour ce qui nous concerne, à 3000 avant Jésus-Christ, à la Mésopotamie, le pays entre les fleuves, et à l'histoire de Gilgamesh. Gilgamesh, c'est le roi d'Uruk, en français moderne, soit Irak, si tu veux parler du pays, soit Warka, si tu veux parler de la localité. Le roi Gilgamesh, à la suite de toutes sortes d'aventures, j'ai pas le temps de développer, mais je vous renvoie à un petit livre que j'ai fait là-dessus, qui s'appelle « Enquête sur la mort de Gilgamesh », si vous le trouvez chez Amazon ou je sais pas où. Le roi Gilgamesh ne veut pas mourir. Il veut vivre tout le temps, comme les dieux. Et il a entendu dire qu'il y avait un individu aux confins du monde, au début du monde, qui était immortel. Cet individu s'appelle en sumérien Zuzudra et en babylonien Auta Napishtim. Et nous, on le connaît sous le nom de Noé. Zuzudra, Auta Napishtim, Noé, c'est toujours le même personnage. C'est celui qui est rescapé du déluge, de la submersion totale de l'humanité et de la terre. Punition divine, juste rétribution des péchés de l'humanité. Mais on a trouvé injuste et donc voilà. Et donc il entreprend un long voyage pour aller voir ce personnage et lui demander le secret de l'immortalité. Il y a toutes sortes d'épreuves, c'est vraiment une odyssée, hein. C'est une épopée, l'épopée de Gilgamesh, il y a 12 chants. Bon. Et il arrive enfin à Zuzudra et qui lui dit « Mais je ne peux pas te donner ce secret parce que pour moi, c'est la rançon de la mort de toute l'humanité. Pour que moi, je sois immortel, il faut que tout le monde ait péri. Donc on ne va pas retuer toute l'humanité pour toi. Hein. Et ce qui s'est produit une fois ne se reproduira pas deux fois. » Et l'épouse de Zuzudra, Noé et compagnie, a pitié de Gilgamesh et dit à son mari « Mais il ne leur envoie pas les mains vides. » Donc, il lui donne une plante. Et cette plante, c'est la plante d'éternelle jouvence. En lui disant, quand tu seras vieux, tu manges un petit morceau de cette plante et hop, tu redeviens un jeune homme. D'où le nom de Gilgamesh, qui veut dire en sumérien, le vieux est un jeune. Le vieux est un jeune homme. Très bien, salut, merci. Il repart. Et dans le désert, donc voyage de retour. Et dans le désert, il fait très chaud. Il s'arrête pour se reposer à l'heure de midi. Il s'endort. Il se baigne, il s'endort près d'un puits. Et pendant qu'il dort, le tigre de sol, en sumérien, on dit le tigre de sol, c'est-à-dire le serpent, sort du sol, vient manger la plante et perd sa vieille peau de serpent. Et fait sa mue. Et s'en va. Et donc, Gilgamesh est marron. Et ce qui, au passage, est une leçon. Tu vois, il a convoité quelque chose qui ne lui est pas dû. Et puis, quand même, début d'un gros conflit entre les serpents et les hommes. Quoi.
Oui, c'est encore un serpent qui fait perdre la vie éternelle.
C'est le même.
C'est le même.
C'est le même, c'est le même qu'on retrouve 2000 ans plus tard chez les Hébreux. Alors, toi, tu as l'air d'avoir fait ton caté. Donc, tu te rappelles que... Tu rougis, t'as fait
non,
ton caté.
Pire, j'ai fait pire que ça. Moi, j'ai grandi aussi chez les témoins de Jéhovah.
Ah, d'accord. Donc, tu connais très bien.
Je sais pas
donc,
si c'est heureusement ou malheureusement.
Donc, tu te rappelles que ton père Abraham venait de Ur en Chaldée. Les Hébreux, les Abirou, viennent de la Mésopotamie. Donc, il n'est pas tellement étonnant qu'ils aient ramené avec eux en Judée, Palestine et en Égypte, toute la mythologie, tous les contes et légendes de Ur et d'Uruk. Hein? Et c'est dans le début de la Genèse, Genesis en tête, la tête, généalogie, etc. Bon, c'est dans les débuts de la Genèse, et ça dit exactement ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce qui semble indiquer que pour le moment, il ne meurt pas. Bon. D'après mes exégètes, moi je ne traduis pas de l'hébreu, mais d'après certaines exégèses, en fait c'est pas du bien et du mal, c'est de la vérité et de l'erreur, du vrai et du faux. Bon. Donc tu connaîtras le vrai du faux, ce qui est quand même la base de l'esprit scientifique. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme... Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, sicut dei, en latin, connaissant le bien et le mal. » Vraiment un salopard, le serpent, quand même. Hein. Bon. Et donc, évidemment, vous connaissez la suite. Le serpent induit Ève en tentation, Ève induit Adam en tentation, et il se retrouve à la porte du jardin, et il meurt, et il faut qu'il bosse, et il transpire. Mais ils ont acquis la différence entre la vérité et l'erreur. Donc ils sont sortis de l'innocence, ils sont sortis de l'innocence des animaux, ils ne peuvent plus parler avec les animaux. Au paradis, ils comprenaient la langue des animaux, ils ne comprennent plus la langue des animaux. Ils ont changé d'espèce. Il y a une mutation. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, etc., etc. C'est-à-dire que, en fait, il y a le deuxième arbre, il y a le premier arbre, c'est l'arbre de la connaissance, l'esprit scientifique. Le deuxième arbre, c'est l'immortalité. Une fois que tu as acquis la connaissance, tu peux acquérir l'immortalité et être comme Dieu. En fait, dans la Genèse, on alterne le terme Yahvé et Elohim. Yahvé, c'est un singulier. Elohim, c'est un pluriel. Elohim, ça veut dire les dieux, les Elohim. Hein. Parce que la Genèse est en fait un texte hybride, fruit de multiples réécritures de prêtres, etc. Et que donc tu trouves dans le texte des traces des rédactions anciennes et de textes anciens. Voilà. L'homme a acquis la connaissance du bien et du mal, et maintenant il veut devenir Dieu. Et il va y travailler pendant des siècles et des millénaires. Naturellement, donc il développe sa connaissance, et simultanément, parallèlement, il prie les dieux. Alors, il prie d'abord les esprits qui sont les génies, ceux qui sont contenus dans les éléments naturels, les arbres, les sources, les montagnes, enfin, en les priant d'être favorables. Puis, ces conceptions théologiques évoluent. Il conçoit les dieux, mais c'est des dieux spécialisés. Il y a le dieu de l'océan, le dieu des sources, le dieu du ciel, le dieu de la terre, et ainsi de suite. Puis, ces conceptions théologiques évoluent encore, et il aboutit au monothéisme. En Égypte, ça commence avec Toutankhamon et le culte du dieu solaire, mais Toutankhamon est renversé, son culte est aboli, et ça continue avec le mosaïsme, Moïse étant fortement soupçonné d'être en fait un Égyptien. Un Égyptien qui a dit aux Hébreux, allez viens, on se fait une bande à nous, et ils font un peuple. Et donc ils sortent d'Égypte et ils inventent le monothéisme et le mosaïsme promis à l'avenir que l'on sait. Mais ça, c'est la branche hébreu, judéo-judéenne. Il y a une autre branche, qui est la branche gréco-latine. Et pour ce qui nous intéresse, les Grecs. C'est-à-dire que les Grecs, évidemment, sont des gens pieux. Alors eux, ils viennent du Nord, hein. Ils ne viennent pas de l'Est, ils viennent du Nord. Bon. Alors ils rendent des sacrifices aux dieux, ils font un culte, ils font des rites, etc. Et parallèlement, ils étudient la nature. La physis, la nature qui croit d'elle-même, hein, la matière. Et ils développent une civilisation et ils se posent des questions. Ils ont des sages, les sophistes, les philosophes, les amis de la sagesse. Les amis de la sagesse, ils font une assoce, ils se réunissent, ils font des petites bouffes, ils mangent du taboulé et ils discutent sur un sujet donné, ou l'amour, ou ceci, ou cela. Et à un moment donné, on trouve une trace dans Aristote, dans le livre de la Politique. Aristote pose la question Pourquoi est-ce que nous avons des esclaves? Pourquoi est-il nécessaire et juste que nous ayons des esclaves? Et là, il répond, nous les sages, nous les philosophes, nous les citoyens. Les citoyens ne sont pas esclaves. La réponse qu'il donne, c'est l'esclave lui-même. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? C'est une sorte de propriété animée. Et tout homme au service d'autrui est comme un instrument qui tient lieu d'instrument. C'est une machine à la place d'autres machines. Si, en effet, chaque instrument était capable sur une simple injonction, sur un simple commandement, Siri, Alexei, enfin bon, commande vocale, hein, ou même pressentant ce qu'on va lui demander, d'accomplir le travail qui lui est propre, comme on le raconte des statues de Dédale ou des trépieds d'Héphaïstos, lesquels, dit le poète, se rendaient d'eux-mêmes à l'assemblée des dieux. Si de la même manière les navettes tissaient d'elles-mêmes, en fait si les navettes étaient des machines à tisser, automatisées, et les plectres, c'est en musique, c'est pour jouer de la cithare, hein, pinçaient tout seul la cithare, alors ni les chefs d'artisans n'auraient besoin d'ouvriers, ni les maîtres d'esclaves. Tu remarques que les ouvriers et les esclaves sont mis dans le même lot. Hein. Ils sont libres, mais ils obéissent aux maîtres des artisans et les esclaves aux maîtres des esclaves. Et donc, la conclusion d'Aristote, c'est dans la Politique, c'est 400 avant Jésus-Christ, je ne sais plus quand exactement, c'est que, en fait, les esclaves sont des machines vivantes. Des machines qui tiennent lieu de machines non vivantes.
Des robots.
Voilà, des robots. Le mot, tu as bien fait de prononcer le mot robot, parce que je l'ai justement là sous mes yeux. Le mot robot est un néologisme forgé environ plus de 2000 ans après Aristote, par le tchèque Karel Čapek, dans une pièce qui s'appelle RUR. Raison universelle robot. Et robot vient d'une racine slave, rabot, le travail. Alors, par exemple, le Rabotchoye Dielo, c'est le journal des travailleurs, etc. Mais c'est le travail forcé, contraint, le travail serf. Donc, ce que le dramaturge Karel Čapek invente en 1921, c'est le néologisme robot, la machine-outil qui obéit à tes ordres. Et sa pièce a un tel succès, non seulement en Bohème, mais à Paris, mais à New York, mais partout, que le mot robot, effectivement, devient universel comme le titre de sa pièce. Pour tout le monde, désormais, un robot, c'est une machine plus ou moins androïde, plus ou moins humanoïde, qui est censée t'obéir, sauf quand elle se révolte, comme dans la pièce de Čapek. Voilà, là, on a fait la boucle. Maintenant, on revient à Aristote. Donc, Aristote dit « on manque de machines ». Machine en grec se dit de deux façons. Soit tu habites Athènes et tu dis mécané. Et en français, ça donnait toute la lignée des mécaniciens, des mécanismes, etc. Soit tu es de Sparte, tu le dis en dorien et tu dis machina. Et ça a donné machine, machiniste et compagnie. Et en italien, ça dit la voiture. Bon, la machina. Bon. Mais il y a un sens, il y a d'autres sens. Ces machines, ces mécanismes, en grec, qu'on soit à Sparte ou à Athènes, ça signifie aussi des moyens. Moyens, trucs, bidules, subterfuges. Et là, ça te rappelle le sens tardif en français d'une machination. Machiner quelque chose. Hein? Une intrigue, un truc, un stratagème. Il dit stratagème aussi en grec, ruse. Donc, ce que ça nous dit, c'est que toute machine, tout mécanisme est un moyen en vue de quelque chose. En vue de quoi ? Ça, on l'a vu précédemment, en vue de la puissance, en vue de pouvoir quelque chose. Réciproquement, tout moyen est une machine. blanc bonnet et bonnet blanc. Tout moyen est une machine, toute machine est un moyen. Avec les nuances de contexte, hein, enfin bon. Une machine à quoi, un moyen pourquoi ? Bah, une machine à pouvoir, une machine à faire quelque chose. La machine à tout faire, la machine à tout pouvoir, la machine omnipotente. Bon, tu pourrais dire Dieu. Dieu, c'est la machine à tout faire. C'est la machine ultime, c'est la machine à tout faire, et autodéterminée, automatos. Bon. Donc tu vois comment, de Gilgamesh à Aristote, des Mésopotamiens ou des Grecs primitifs à Aristote, tu passes de l'invocation au surnaturel, l'idéalisme primitif, l'animisme, le totémisme, les génies, les dieux, la magie, tout ça, etc., l'invocation au dieu extérieur, au Deus Creator, Deus Faber, tu passes du surnaturel à l'artificiel. Tu passes de la prière au ciel à « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et donc, tu passes à la techné. Et la techné, c'est quoi ? En français, tout simple, ça veut simplement dire « l'art ». La techné, maîtriser la techné, c'est maîtriser le savoir-faire. L'art, avant de devenir le grand art, l'art et tout ça, bon, c'est simplement l'art de l'artisan. C'est l'art de construire un plancher, une armoire. Bon, c'est ça la techné.
La suite de cette aventure, ce sera pour la semaine prochaine. Avec l'arrivée des premières machines, des usines et du capitalisme industriel. Merci pour votre écoute, partagez ce podcast s'il vous a plu, c'est la meilleure façon de nous soutenir. À bientôt sur Floraison.
Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre. Vive la liberté et vive l'anarchie.